C'est l'été sur France Culture, mais la rédaction, comme la révolution, selon Lénine, ne prend pas de vacances, c'est l'heure du journal. Et le journal vous est présenté par Camille Magnard, bonjour.
Bonjour Martin, bonjour à tous. 5 mois pour remettre à plat toute la filière agroalimentaire en France. Grande ambition que celle fixée à ces états généraux de l'alimentation qui démarrent aujourd'hui à Bercy. Un vaste dossier suivi pour nous par Anne-Laure Chouin. 500 000 formations pour les chômeurs, c'était l'un des axes forts de la politique pour l'emploi de François Hollande. Un an plus tard, c'est un constat d'échec. Selon Pôle emploi, le taux d'embauche après une formation a baissé, nous dira Marie-France Abastado. L'association AIDS salue une grande victoire pour les malades du sida en France. Un arrêté met fin à l'interdiction des soins funéraires pour les séropositifs. Explication à suivre avec Antoine Marette. Aux États-Unis, nous entendrons des électeurs républicains qui croient toujours en leur président après 6 mois de Donald Trump à la Maison-Blanche entre déconvenues politiques et scandales judiciaires. Nous reviendrons également sur cette journée de grève générale à l'appel de l'opposition au Venezuela. La contestation contre le président Maduro gagne les quartiers populaires et ça pourrait tout changer. Analyse du sociologue Garcia Sanchez. À 12h45, la grande table d'été. C'est quoi le programme, Martin ?
Eh bien, Camille, la Grande Table, aujourd'hui, ne vous propose rien moins que l'éternité. L'éternité, toujours recommencée, des efforts des cyclistes de la Grande Boucle, cette éternité verticale. Donc, des cyclistes avec Olivier Alambon. Et l'éternité que vous propose aussi la lecture quand vous quittez ce monde terrestre et que vous échappez, que vous partez en livre. C'est le nom d'une grande manifestation dédiée à la jeunesse et nous recevons quelques-uns de ses acteurs.
À tout à l'heure. Après les territoires, après l'université, voilà une nouvelle grande concertation comme le nouvel exécutif semble les aimer. Les états généraux de l'alimentation étaient lancés ce matin à Bercy au ministère de l'économie et des finances. Il s'agit de faire cogiter ensemble tous les acteurs de la filière agroalimentaire, des paysans aux consommateurs en passant par l'industrie et la grande distribution. Tout cela devrait déboucher à la fin de l'année sur des mesures concrètes, peut-être une loi pour permettre à tous les Français d'avoir accès à une alimentation de qualité dans le respect d'une agriculture durable. Voilà pour la feuille de route édictée par Emmanuel Macron. On en parle en direct depuis Bercy avec Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Camille. Oui, des états généraux qui commencent sous ce qu'on pourrait qualifier de mauvais augure puisqu'on a appris ce matin, autant dire au dernier moment, l'absence d'Emmanuel Macron qui devait clôturer cette journée et qui en était l'initiateur. Dans la foulée, on apprenait aussi que la ministre de la Santé puis le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avaient mieux à faire aujourd'hui malgré leur inscription au programme. Alors certes, Nicolas Hulot, qui doit exprimé ne s'est pas encore décommandé, mais plusieurs organisations agricoles notamment ont assez mal pris cette absence de 2 ministres sur 4. Le Premier ministre Édouard Philippe a bien, lui, comme prévu, ouvert ses états généraux. Il s'est adressé avant tout aux agriculteurs en dressant un portrait des liens qui unissent leur profession aux Français, des liens pas exempts de clichés ni de fantasmes, a-t-il rappelé. Ces états généraux vont donc se décliner jusqu'à la fin de l'année. Ce sont bien ceux de l'alimentation et non ceux de la seule agriculture, et c'est ce qu'a voulu souligner d'ailleurs au cours d'une intervention le président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot. On parle trop de prix et de valeurs à redonner aux agriculteurs, pas assez de nutrition, de santé et d'accès à une nourriture saine, a-t-il dénoncé en substance. Ce matin d'ailleurs, une première question cruciale a été évoquée, non pas par les intervenants mais par les participants dans la salle. En France aujourd'hui, les inégalités alimentaires sont criantes, voire scandaleuses au regard d'un pays développé comme le nôtre. Comment les réduire? Ce sera l'un des nombreux objets de ces états généraux.
Anne-Laure Chouin, merci à vous. Vous étiez en direct de Bercy grâce aux moyens techniques de Jean-André Giannekini. Et pour prolonger sur ce vaste thème, je vous propose à présent d'écouter le témoignage de Nicolas Chaban. Il participe aux états généraux de l'alimentation, pas si facile à dire, parce qu'il a fondé l'année dernière la marque des consommateurs, une marque qui commercialise du lait en s'engageant à rémunérer les producteurs au juste prix. C'était une réaction à la crise des tarifs laitiers. Il se dit convaincu que c'est des consommateurs que viendra bien la révolution alimentaire.
Il y a une notion très importante qui est apparue et qui, à mon avis, sera un prisme qui va éclairer les états généraux de l'alimentation. C'est que quand vous rajoutez les centimes qui manquent au producteur, eh bien, il va naturellement et par conséquence pouvoir améliorer la qualité du produit. On l'a vu dans le lait. Quand il y a cette pression du prix le plus bas en permanence, les producteurs mettent des OGM dans l'alimentation parce que c'est plus simple, prennent des fourrages du bout du monde parce que c'est moins cher et plus simple. Donc finalement, il y a une dégradation de la qualité des produits quand on appuie sur le prix finalement payé aux producteurs. Alors la grande nouveauté, les messages qu'on fait passer quand on nous questionne, c'est de dire Les consommateurs sont prêts à devenir acteurs. Appuyez-vous sur eux, alors que depuis 30 ans, personne ne s'interroge vraiment et ne questionne le consommateur. Ça, c'était un grand manque. Nous, consommateurs, on est tout à fait prêts à comprendre qu'il y a des contraintes côté producteur, et puis à défendre aussi un prix payé au producteur pour qu'en échange, ils nous fassent des produits de qualité.
Nicolas Chabanne de la marque du consommateur au micro d'Anne-Laure Chouin. Nous le disions il y a quelques minutes, Emmanuel Macron a surpris ce matin en annulant donc sa participation aux états généraux de l'alimentation. Le chef de l'État qui a souhaité, nous expliquons à l'Élysée, consacrer plus de temps aujourd'hui aux militaires. Il est depuis 9h sur la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône où nous retrouvons Julie-Marie Lecomte. Julie, ce déplacement forcément il est très sensible. C'est une opération reconquête de l'armée au lendemain bien sûr de la démission du général De Villiers et en présence du nouveau chef d'état-major, François Lecointre.
À Istres, Emmanuel Macron est pour la première fois aux côtés de son nouveau chef d'état-major des armées.
Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par deux sections de la base aérienne 125.
Emmanuel Macron écoute plus qu'il ne parle, pose des questions.
En termes d'effectifs totaux, quelle est la structure ?
Le président sourit beaucoup, mais c'est sa marque de fabrique et tout se passe comme si de rien n'était.
Bonjour, monsieur le président.
Enchanté.
Enchanté.
Secret défense oblige, la séquence de présentation précise des moyens de dissuasion nucléaire s'est faite sans presse. Tout à l'heure, Emmanuel Macron s'adressera aux troupes, il devrait leur répéter, sans évoquer directement la crise, qu'il soutient son armée, que l'État est pleinement engagé et qu'il maintient l'objectif d'un budget de l'armée à 2% du PIB à l'horizon 2025. Il rentrera à Paris dans un ravitailleur 1635, un modèle des années 60, un peu l'équivalent d'une de chevaux, plaisante un officier sous couvert de l'anonymat. Ça vole, mais ça coûte cher à l'entretien.
Julie-Marie Lecomte, France Culture, midi 36. C'était l'un des actes forts de la politique pour l'emploi, selon François Hollande. La formation des chômeurs, il en avait fait l'an passé un plan national baptisé le plan 500 000. Nombre de formations supplémentaires qui devaient être proposées par Pôle emploi à ses inscrits. Sauf qu'un an plus tard, eh bien, selon ce même Pôle emploi, les grandes ambitions n'ont pas eu les résultats escomptés. Bonjour Marie-France Abastado.
Bonjour.
Les résultats, c'est en fait une baisse du nombre de chômeurs qui ont trouvé du travail après avoir suivi une formation.
Oui, effectivement, Pôle emploi s'était donné comme cible que 56% des demandeurs puissent avoir accès à un emploi après une formation financée ou rémunérée par l'opérateur d'État. Or, les chiffres montrent effectivement que l'accès à ces emplois est moins élevé que prévu et n'atteint que 54,9%. Même chose du côté des contrats à durée indéterminée. Alors qu'on souhaitait que 29% des demandeurs puissent obtenir un emploi durable, ils ne sont que 28,3%. Cette baisse touche des personnes qui ont suivi des formations entre juillet et novembre 2016, personnes qui ont en grande partie bénéficié du plan 500 000. Le programme adopté par la précédente majorité, vous le disiez à l'instant, visait surtout des travailleurs peu qualifiés, des chômeurs de longue durée ou des personnes avec un handicap. Par ailleurs, les performances de Pôle emploi en ce qui concerne l'accompagnement des demandeurs sont quant à elles bien supérieures aux objectifs. Selon une enquête Ipsos, 71,2% s'en disent satisfaits. C'est beaucoup plus que la cible de 67% que s'est donné l'opérateur pour 2017. Rappelons en terminant que Pôle emploi a été critiqué par le passé pour son inefficacité, particulièrement à l'égard des chômeurs de longue durée que l'opérateur peinait à réintégrer au marché du travail. Il faut dire que Pôle emploi a dû faire face entre 2009 et 2015 à une véritable explosion du chômage de masse. Pendant cette période, les chômeurs sont passés de 3,9 millions à 6,2 millions, soit une hausse de 58%.
Marie-France Abastado, merci à vous. C'est une vision d'ensemble à présent, une vision d'ensemble de l'épidémie du sida dans le monde que nous propose l'ONU dans un rapport publié aujourd'hui, à 3 jours du lancement à Paris d'une conférence internationale de chercheurs sur le virus. On y apprend par exemple que le nombre de morts du sida sur la planète a été divisé quasiment de moitié depuis le pic de mortalité qui avait été atteint en 2005. Plus de la moitié des malades ont aujourd'hui accès à un traitement. Le nombre de contaminations, lui, c'est moins positif, continue de décliner, même s'il le fait à un rythme qui est toujours considéré comme trop lent par l'agence ONU-SIDA. Nous reviendrons sur ce rapport plus en détail dans notre édition de 18h. Mais pour l'heure, nous saluons la fin de cette discrimination réclamée depuis des années par les associations de lutte contre le sida. Au Journal officiel ce matin, un arrêté met fin à l'interdiction pour les séropositifs de recevoir des soins funéraires. Bonjour, Antoine Marette.
Bonjour.
Cette interdiction, elle est vécue comme une véritable séropophobie par les associations. Elle datait, cette interdiction, des tout débuts de l'épidémie en 1986.
Effectivement, 31 ans d'interdiction, alors que la littérature scientifique ne révèle aucun cas de contamination d'un thanatopracteur par le cadavre d'une personne séropositive. Les conditions d'exercice de la profession sont très encadrées et elles vont l'être encore davantage, notamment lors des interventions au domicile du défunt. Jusqu'à présent, les personnes séropositives n'avaient le droit qu'à une simple toilette funéraire, insuffisante pour conserver le corps dans de bonnes conditions plusieurs jours. Seule la thanatopraxie, qui consiste notamment à injecter des liquides dans le corps du défunt, permet de retarder sa décomposition. À partir du 1er janvier prochain, les personnes séropositives pourront donc aussi en bénéficier. Les associations de lutte contre le sida et des discriminations s'en félicitent. C'est le résultat d'un long combat. En 2012 déjà, François Hollande en avait fait une promesse de campagne. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait tenté de lever l'interdiction pour le début de l'année 2016 dans le cadre de son projet de loi santé. Mais un amendement proposé par des députés républicains et soutenu par des députés de gauche avait rejeté le texte car il prévoyait que les soins funéraires soient réalisés uniquement dans des chambres funéraires pour garantir une hygiène et une sécurité optimale pour les thanatopracteurs. C'est donc par la voie réglementaire que le nouveau gouvernement a levé cette interdiction de soins funéraires pour les personnes séropositives et également atteintes d'hépatite, d'où ce délai qui court jusqu'à janvier, le temps de vacciner contre l'hépatite B l'ensemble des thanatopracteurs.
Antoine Maret, merci à vous. 6 mois à la Maison Blanche, entre polémiques et revers politiques pour Donald Trump. Tout cela n'empêche pas ses électeurs de continuer à le soutenir. Plus de 82% des républicains sont toujours derrière le président. C'est ce qu'est allé confirmer notre correspondant à Washington, Philippe Brandet. Il s'est rendu dans le village de Manchester, dans le Maryland. Là-bas, on avait voté massivement Trump il y a 6 mois.
Pour prendre le pouls de Manchester, il faut s'arrêter sur le parking de la station-service au bout de la rue principale. Ron est le patron d'une boutique juste à côté et comme plus de 65% des habitants, il soutient Donald Trump.
Il fait du très bon travail et l'économie est vraiment repartie. Moi, c'est ma meilleure année alors que je suis installé ici depuis 14 ans. Les gens ont retrouvé une attitude positive grâce au côté businessman du président. Il a fait passer plus de lois devant le Congrès que n'importe quel président. C'est vrai qu'Obamacare n'est pas une réussite. Il n'a pas non plus construit le mur avec le Mexique. Il y a beaucoup d'opposition. C'est pas un vrai politicien. C'est pour ça qu'ils sont contre lui.
À quelques mètres de là, l'un de 67 ans monte sur sa moto. Lui aussi a voté pour Donald Trump et il continue à le soutenir pour le moment.
Il est resté très dur face à la Corée du Nord et son arsenal nucléaire. Il essaie de privilégier notre armée, ce dont on a besoin, car beaucoup de gens prennent pour cible les États-Unis. Donc on va voir, il faut lui laisser du temps, mais je ne suis pas complètement satisfait. J'attends de voir ce qu'il va faire en plus.
Et alors que l'Inde démarre sa moto, un peu plus loin, John fait le plein de son 4x4. Ce vétéran de l'armée le dit. Ses 6 mois de présidence Trump ont été parfaits. Il faut juste qu'il arrête de tweeter.
Reportage de Philippe Randet à Manchester dans le Maryland. L'actualité internationale, c'est aussi cette journée de grève générale qui commence à l'appel de l'opposition au Venezuela. Une journée de grève de plus, pas si sûre depuis le succès du référendum symbolique de défiance au président Maduro. Dimanche dernier, plus de 7 millions de participants. Les anti-chavistes veulent croire que la crise qui dure depuis des mois peut basculer à leur avantage. Et la sociologie de la contestation qui a changé ces derniers jours pourrait leur donner raison, selon l'universitaire vénézuélien Garcia Sanchez.
Ça fait au moins 2 ans qu'il y a des groupes, des groupuscules qui se détachent du régime de Maduro. À l'intérieur de l'armée, il y a eu des dizaines d'officiers qui sont aujourd'hui en prison parce que, tout simplement, ils ne sont pas voulu suivre la voie gouvernementale de Maduro. Et à l'intérieur du parti socialiste qui est derrière le gouvernement de Maduro, il n'y a plus cette unité qu'il aurait pu avoir auparavant. Et de la part aussi des mouvements, des bases dans les quartiers populaires, c'est aussi le cas. Dimanche même, c'était une évidence flagrante dans les quartiers populaires des Katia, qui pendant longtemps a été un bastion chaviste. Ça fait au moins 6 ou 7 ans que les gens voulaient sortir pour se mobiliser, pour protester face à la situation des pénuries alimentaires, des pénuries de médecine, etc. Et qui ne les faisaient pas, parce qu'à chaque fois qu'ils les faisaient, il y avait les bandes armées qui venaient faire peur, se semer la terreur. Et dimanche, pour les élections, il y a eu une mobilisation énorme dans ces quartiers. Et les images montrent que dans les mêmes points autour de l'église de Katia, au moment où il y avait un rassemblement pour aller voter, les bandes armées sont venues. C'est là où il y a eu des fusillades, où il y a eu deux morts. Et donc, cela montre qu'il n'y a pas de paix civile possible. Il n'y a pas d'ordre public normal possible si on ne suit pas les scripts que le chavisme gouvernemental donne au pays.
Voilà le sociologue vénézuélien Garcia Sanchez, qui est maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre, joint par Nabila Hamel. Un mot de météo enfin, difficile d'échapper aux averses cet après-midi, à part peut-être sur la Bretagne et le pourtour méditerranéen. Du côté des températures, 18 degrés sur les côtes de la Manche, 22 à Paris, Nantes et Metz, 27 pour Lyon et Strasbourg, jusqu'à 30 degrés pour la Corse. Yacine Bouzard réalisait cette édition. Je vous propose de vous retrouver à 18h pour le prochain journal de la rédaction.